Non-conformiste, en effet, René Berthaud l'est plus que quiconque. René Berthaud, c'est non seulement le talent, c'est aussi la fidélité. Fidélité à ce qui fait la grandeur de notre civilisation, l'amour du beau, du vrai et du bien. Fidélité au principe de la loi naturelle, qui fut la référence constante de nos pères, qui persiste à défendre dans un monde désorienté, idéal reposant sur le sentiment patriotique, la religion de l'honneur et du serment, le goût de l'effort, le sens du sacrifice et du dévouement, l'amour de la famille, des vertus domestiques, le respect de la parole donnée. Toute sa vie, René Berthaud a servi cet idéal, professeur exemplaire et apprécié de ses élèves, serviteur de la patrie en sa qualité d'officier supérieur, préfet au caractère indépendant. Toute sa vie, il fut un mainteneur au courage exemplaire, stoïque face aux clameurs de ses adversaires. René Berthaud est une personnalité marquante de notre canton et je le remercie d'être venu à notre secours ce soir et je lui donne la parole.
Monsieur le Président du mouvement chrétien conservateur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on se laisse volontiers émouvoir par la scène touchante d'un enfant qui suit son papa dans la neige et qui s'essaye à appliquer ses petits pas dans les grandes traces qui le précèdent. C'est cette émotion tendre et amicale que je sollicite, ayant par les malheurs ferroviaires français à suivre à la trace Jean de Viguerie, notre orateur absent. Beaucoup d'entre nous se souviennent de l'an dernier. Cet historien nous avait offert un véritable régal, ayant atteint un haut point dans l'art de l'exposé, une documentation large et parfaitement maîtrisée, une virtuosité verbale servie avec une belle élégance, un jugement faisant fidèlement référence aux vérités qui sont nos propres repères. À défaut de grive, on doit se contenter de merle, disaient jadis les mangeurs d'oiseaux. Je serai donc pour une partie d'heure le merle que M. le Président Germainier a tiré de sa boîte à malice. Jean Viguerie a donc publié, voilà maintenant 16 mois, un petit livre intitulé « L'Église et l'éducation », ayant constaté, comme il le dit dans son introduction, que si la connaissance de cette œuvre éducative était voilà un siècle connue même de ses adversaires, elle était aujourd'hui ignorée même chez les chrétiens. Et de citer l'exemple d'un conférencier catholique parlant de ce sujet à un auditoire catholique et que le président remerciait ainsi, vous vous êtes tiré avec honneur d'un sujet ingrat. Eh bien non. Le sujet n'est point ingrat, il est somptueux, riche, réconfortant. Savoir si l'exposé en sera peut-être ingrat est une autre question. Nous sommes tous intéressés à l'éducation, par vocation parentale, parents, parrains et marraines, oncles et tantes, grands-parents, ou intérêt professionnel et évident devoir d'État. Le renouveau rhodanien invita jadis une belle brochette de conférenciers pour en parler, essayant vainement de combattre la subversion que nos États laissaient pénétrer dans l'école. Aussi, avant d'ouvrir de Viguerie, nous allons nous poser la question suivante, qui semble bien être fondamentale. Qui a mission, qui a devoir, qui a le droit d'enseigner ? Placé devant le nouveau-né, démuni, ignorant, l'âme déjà froissée par le dérèglement originel, la nécessité de l'élever et de le conduire quelque part ne saurait être valablement mise en doute. Qui peut donc prétendre à avoir sur lui autorité? Trois sociétés ont des titres à faire valoir. La société domestique, la famille. Elle donne la vie. Elle doit la conduire à sa relative perfection, conduire l'enfant vers l'âge adulte, vers la majorité. C'est l'ordre providentiel, la loi de nature, ainsi que le Créateur l'a inscrite dans le réel de notre destinée. Mais l'enfant vit un deuxième enfantement par le baptême. L'Église, par ce sacrement, enfante le petit homme à la vie spirituelle. Elle a, dès ce moment, un pouvoir direct sur la formation spirituelle des baptisés. Et vu la subordination du naturel au spirituel, l'Église a également un pouvoir indirect sur leur formation naturelle. La famille et l'Église ont donc une légitime et inaliénable autorité sur l'enfant. Et si l'on veut bien se souvenir que le latin « auctor », celui qui produit, est la racine du mot « auctoritas », autorité, on dira que l'autorité est le droit de l'auteur. Autorité des parents, auteurs de la vie naturelle, autorité de l'Église, auteur de la vie spirituelle. Certains rationalistes, à partir de 1900 surtout, ont contesté le droit de l'Église au nom des droits de l'enfant. Ce sont là propos de sophistes, et il est bon de rappeler que les droits de l'enfant se sont affirmés et ont pris consistance en Occident au fur et à mesure, et seulement au fur et à mesure que le christianisme marquait la société et l'élevait en dignité. La société civile, l'État, est la troisième société qui peut prétendre au droit d'enseigner. Mais ces titres, cela saute aux yeux, n'interviennent qu'en second plan. Elle intervient subsidiairement à la famille pour l'aider à mener à bien, par l'organisation de l'école, une tâche qu'elle ne peut d'ordinaire assurer valablement toute seule. Mais on sait bien que la société civile tente à se substituer totalement à la famille et à lui imposer finalement son projet. On en voit bien les fruits aujourd'hui, où l'on peut se demander si l'on n'est pas près de l'achèvement d'une boucle. Partie des masses non instruites et asservies dans les formes de l'esclavage antique, on arrive au terme de l'évolution démocratique de l'école à lui ôter toute vertu pour générer des masses quasi analphabètes et totalement conditionnées. L'État peut schématiquement avoir trois attitudes. Il enseigne seul, c'est une situation de monopole. Il n'enseigne pas, c'est la situation d'abstention, où il enseigne en même temps que des particuliers en situation de concurrence. La première est illégitime, le monopole, la seconde est légitime et la troisième peut être légitime. Sachant donc que l'État n'a pas, comme la famille ou l'Église, un titre indiscutable, l'enseignement n'est pas un besoin commun, il n'est pas nécessairement une tâche des pouvoirs publics, il n'est pas, selon le terme consacré, une tâche régalienne. Mais dans les temps que nous vivons, vu l'accaparement par l'État de toutes les ressources de l'impôt, il a un devoir réel, donc un droit, à se préoccuper de l'école. Dans ce secteur de la vie sociale, il doit sauvegarder la justice, l'assurer, protéger les faibles contre les abus. Nul ne contestant aujourd'hui la nécessité de l'enseignement élémentaire, il appartient à l'État d'y engager des moyens financiers suffisants. Survol historique maintenant. Une observation de l'époque de l'école romaine permet à l'historien d'avancer que la liberté de l'enseignement public et privé dura aussi longtemps que l'Empire romain. Et il apparaît que l'enseignement chrétien s'est greffé sans difficulté sur la culture gréco-latine. La clique immense des sans-dieux a réussi à imposer l'idée que l'école a commencé postérieurement à la Révolution française. Sans doute est-ce vrai de l'école dite obligatoire que le principe d'égalité imposait. Plus réaliste autrefois, on admettait que l'école était faite pour ceux qui peuvent apprendre, et on ne considérait pas comme dramatique que les cancres se fatigassent à d'autres établis que le banc scolaire. En fait, à la chute de l'Empire romain, l'Église recueillit les livres et assura la transmission du savoir selon les circonstances. On vit alors successivement les écoles monastiques nombreuses dès le VIe siècle, les écoles diocésaines et les écoles paroissiales. Comment ne pas citer ici, pour aller rapidement dans le temps, le rôle réellement majeur de l'incontournable Charlemagne, qui prêchant d'exemple en apprenant à lire à 40 ans, s'entoura de savants conseillers, favorisa l'étude des belles lettres, au point qu'un moine de Saint-Gall put écrire « Sous Charles, les Francs étaient comparables aux Grecs et aux Romains. » Je crois qu'on ne risque point d'erreur en considérant que l'œuvre de Charlemagne est du point de vue historique de première importance. Il donne par la clim réorganisée et appliquée les moyens d'entretenir les écoles paroissiales et il veille à pourvoir les emplois par les meilleurs. C'est assez amusant de voir comment le peuple sonde spontanément à sa mort, l'a canonisé, bien qu'il ne soit jamais rentré tout à fait officiellement dans la liste des saints. Mais je m'amuse aussi de voir que dans la région de Martigny, on lui avait dédié une chapelle qu'on lui a subrepticement enlevée aux heures. On avait un Saint-Charlemagne qui est devenu Notre-Dame-des-Neiges. Par contre, à la réfection du grand autel de l'église de Martigny, la statue de Saint-Charlemagne qui figure sur la droite ou la gauche de l'autel, du grand autel, a été restaurée et laissée en l'état. Sans doute les soucis artistiques ou la protection des beaux-arts a valu qu'on ne le déniche pas, puisque c'est un peu les attentions des clercs contemporains. Donc Charlemagne a sans doute joué le rôle que la chanson lui attribue, d'avoir inventé l'école, mais le côté le plus génial, je crois, de cet homme d'État, c'est d'avoir, par la dîme, donné les moyens aux prêtres de tenir l'école, mais d'avoir, par les ordres qu'il donnait, par les nominations épiscopales auxquelles il contribuait, mis en place des gens qui assumaient cette charge de manière décentralisée. Voilà. Si j'ouvre maintenant avec vous le livre de Jean de Vicquerie, nous voyons d'abord pour dresser le bilan de l'Église dans l'œuvre de l'éducation, l'auteur ouvre en fait 5 chapitres. Ces 5 chapitres sont les suivants, ils se suivent avec 30 ou 20 pages, donc de dimensions à peu près semblables. 1. La mission éducative à travers l'histoire. 2. L'enseignement des vérités révélées dans cette école. 3. L'école chrétienne. 4. Les maîtres. Et 5. Les pédagogues ou les pédagogies. Je vais successivement voir plus ou moins rapidement au pas de charge ces différents chapitres. La première partie, donc, qui parle de la mission éducative à travers l'histoire, définit bien la mission d'enseignement et la manière de la réaliser. Du 6e au 18e siècle, sur 1200 ans, le bilan est le suivant. Vous permettrez que je fasse d'amples emprunts à notre maître. Si l'on ajoute aux collèges et aux universités les innombrables écoles élémentaires fondées par des évêques ou des curés, dirigées par des prêtres, des frères ou des religieuses, on peut dire vraiment, l'Église a scolarisé l'Europe. De siècle en siècle, la densité des réseaux d'écoles ne cesse d'augmenter. Dès le XIVe siècle en France, il existe des écoles paroissiales dans de nombreux villages. Au XVe siècle, en Allemagne et en Pologne, presque toutes les paroisses possèdent leur école. Au milieu du XVIIIe siècle, la Compagnie de Jésus régente en Europe 554 collèges. En 1784, l'Institut des Scolopies en gouverne 218. À la veille de la Révolution française, le nombre des universités des pays catholiques s'élève à 124. Après la Révolution, l'Église ne se désintéresse pas de l'école, bien au contraire, même si dans plusieurs pays, elle se trouve contrainte de constituer de nouveaux réseaux vu la persécution subie. Je cite à nouveau. 19e et 20e siècle voient aussi se mettre en place un réseau dense d'écoles catholiques couvrant toute l'Amérique du Nord. Sous le seul épiscopat de Mgr Plessis, 1806-1829, sont créés au Québec, à l'initiative de cet évêque, plus de 1500 écoles. Aux États-Unis, à partir de 1850, les immigrés irlandais édifient ce qu'on a pu appeler un système national d'éducation populaire. Ils n'ont pas de gros moyens financiers, ce sont les pauvres de la nation. Mais la plupart des 9000 écoles primaires, des 2441 écoles supérieures et des 250 universités qui constituent, selon une statistique de 1953, le réseau scolaire catholique américain, doivent à ces pauvres leur existence. Historien documenté et précis, Jean de Vicquerie, on l'a vu, dresse un tableau impressionnant de l'incroyable fécondité de l'Église jusqu'au milieu du XXe siècle. Les ordres nouveaux abondent, dont celui de Don Bosco à Turin est un bon exemple. Jean de Vicquerie constate ensuite le retrait des réseaux scolaires après 1960. Il le dit très prudemment. Aux œuvres, L'aggiornamento de l'Église ne semble pas avoir été toujours très favorable. Pour des raisons parfois difficiles à comprendre, point. Chez les pionniers de la pastorale nouvelle, dite d'ensemble, on les trouvait sans doute peu adaptés au temps moderne. On jugeait aussi leur pédagogie archaïque, mais sans expliquer vraiment pourquoi. Fin de la citation. Jean de Viguery a des timidités que plusieurs parmi vous ne connaissent sans doute pas. Aussi leur sera-t-il facile d'aller un peu au-delà du constat historique et de trouver les causes qui ne sont pas aussi difficiles à comprendre que le pense notre auteur. Résumons-nous, dit Jean de Viguery, aujourd'hui, dans la plus grande partie du monde, l'école catholique est entre les mains de l'État. Son financement lui vient très souvent de l'État. Elle se trouve dans une situation de dépendance et d'infériorité. Enfin, la mission éducatrice de l'Église, sauf dans quelques rares pays, n'est pas reconnue de plein droit. Encore une fois, on peut parler de tolérance, mais on ne peut pas vraiment parler de liberté. Voilà. Qu'en est-il de l'enseignement des vérités révélées, au fond, on pourrait dire du message propre, de la tâche propre de l'Église? Dans la méthode, au fil des siècles, l'évolution est assez importante. Ainsi, par exemple, au temps de Saint Ambroise et de Saint Augustin, on pratique une pédagogie qu'on distille mystagogique, où on enseigne principalement le credo et on cultive les voies de l'émerveillement. Au Moyen-Âge, par contre, et ce Moyen-Âge va durer près de 1000 ans, on ne parle pas de catéchèse, on n'a pas de catéchisme non plus, mais par le témoignage et par l'histoire de Jeanne d'Arc, on voit bien ce qu'était l'éducation catholique en campagne. C'était une éducation religieuse domestique, basée sur le sermon dominical, la récitation du pater, de l'ave, du credo, l'étude du décalogue. Et tout cet enseignement que, à côté du sermon dans l'église, les peintures, les vitraux et les statues, et surtout la liturgie de la messe, apportaient hebdomadairement à la population. C'est donc une éducation qui se faisait comme ça, disons de manière moins systématique, moins littéraire, moins scolaire. La catéchèse, proprement dit, le catéchisme apparaît au XVIe siècle. Et c'est avec la réforme catholique, et c'est une riposte à l'offensive protestante de ce siècle. L'offensive passée, le catéchisme demeure, et Jean de Viguery montre en quelques pages son excellence et ses vertus dans les troubles modernes. Mais le catéchisme n'est pas invulnérable, comme on aurait pu le prendre. Une offensive est dirigée contre lui en France à partir de 1950. Jean de Viguery la résume en quelques pages, très dense et très, disons, et très clair, pour conclure, je le cite, le résultat de cette guerre bien orchestrée contre le catéchisme, le résultat ne se fait pas attendre, c'est l'expansion de l'ignorance. Toute une génération grandit dans l'ignorance des vérités révélées. Le mal est si visible que Rome et certains épiscopats, certains seulement, c'est moi qui souligne, s'en inquiètent. Un premier avertissement est donné par Paul VI en 1971 sous la forme d'un directoire catéchétique international, mais ce document est délibérément passé sous silence et la nouvelle catéchèse poursuit tranquillement sa carrière. Cependant, les années 80 voient le début d'une réaction de santé, on revient à des pratiques un peu plus objectives et plus respectueuses du savoir sacré, en témoignent les manuels publiés ces années-là par les conférences épiscopales d'Allemagne, d'Angleterre et de Belgique. Et ici, certains exemples sont ici donnés. Que faut-il faire, se dit Jean Viguery, ou que fera le génie inventif de l'Église qui n'a jamais paru en reste et qui, certaines crises passées, à montrer justement de nouvelles voies et assurer de nouveaux succès. Et il dit, nous ne savons pas, mais nous savons qu'il faudra trouver une solution. Il y a aujourd'hui beaucoup d'incertitudes et d'ignorance. La plupart des catéchèses modernes ne peuvent dissiper ni l'un ni l'autre. Et donc le constat d'une crise en pleine activité, si on pourrait dire, en pleine vitalité. Si on peut parler de vitalité quand il s'agit de mort. Au chapitre 3, l'école chrétienne, Jean Biguerich pose la question au fond, quelles sont les caractéristiques, en quoi consiste l'école chrétienne et que demande l'Église à son école? Alors, les caractéristiques qu'il ressort sont les suivantes. D'abord, c'est une école pour tous. Donc, ce n'est pas une école élitaire, c'est une école pour tous. Et là, l'Église s'oppose de façon très nette aux grands auteurs à succès de cette époque, comme Voltaire qui disait, lui, « Il est à propos que le peuple soit guidé et non qu'il soit instruit. Il n'est pas digne de l'être. » Et si ceux qui étaient là l'année dernière se souviennent, je parle d'un certain nombre de citations où l'on a pu voir Rousseau et Voltaire à l'œuvre et où le visage qu'ils montrent n'est pas du tout celui qu'on laisse apparaître dans certaines propagandes. Donc une école pour tous. Une école pour les filles aussi, il faut le dire peut-être parce qu'on vit dans des temps de sensibilité extrême sur le sort qu'on a fait ou qu'on veut faire ou qu'on fera aux filles. Et malicieusement, l'auteur nous signale quand même que les Ursulines, qui fut un des plus grands ordres enseignants pour filles, étaient créées 8 ans avant les Jésuites qui jouèrent le même rôle du côté des garçons. Et troisième point, troisième caractère de l'école catholique est une école gratuite. Mais non pas une libéralité, une école qu'on offrirait aux pauvres parce qu'on aurait les moyens. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une gratuité de principe. L'école est gratuite pour tous, et pas seulement pour ceux qui n'auraient pas les moyens de les payer. Mais pourtant, l'école coûte. Et alors, comment cette école est-elle financée? De quelle manière? Alors, elle ne conçoit pas l'école autre que gratuite. Et la raison est la suivante, je vous expliquerai après comment. Pour deux raisons. La première est que l'école est une œuvre de miséricorde et que l'on ne fait pas payer la miséricorde. La seconde est que le savoir n'a pas de prix et qu'il est un don de Dieu. Alors, le financement des écoles se fait par les prébendes ou par les parts que l'Église peut avoir sur la dîme ou sur ses revenus propres, mais ça constitue une part mineure. Le principal, ce sont les dons de la société civile, et par société civile, non pas de l'État, mais de la société, c'est-à-dire des gens qui, de manière ou d'une autre, interviennent par leur générosité. Alors là, je me permets de faire une petite parenthèse pour avoir étudié et vu dans l'histoire modeste de ma commune que j'ai eu le plaisir d'étudier il y a un certain nombre d'années, où j'ai pu trouver certaines de ces œuvres. En fait, ce sont des fondations. Lorsque l'on veut créer une chapelle, une école, un hôpital, c'est-à-dire un lieu de passage pour pèlerins, comment procède-t-on le plus souvent? Eh bien, il y a des gens qui font des dons, qui font des dons en argent, qui font des dons par testament de terrain, des gens qui décèdent sans enfants, et puis qui donnent à des fondations leurs biens, leurs champs ou leurs vignes. Et ainsi, l'œuvre se constitue un pécule, soit en argent, soit en terre, qui permet à un gardien ou à quelqu'un de vivre. Et alors, ces sous modestes qui sont accumulés constituent une bourse qu'on prête. Et dans nos régions où il n'y avait pas de banque, je n'ai pas vu de trace d'activité bancaire, on était aussi à la merci des prêteurs trop avides, c'était toutes ces fondations qui constituaient les banques. Et ils prêtaient par petites sommes, en général 5, 10, 20 écus, rarement 50. Lorsqu'on a converti l'écu en France, c'était une pièce de 2 francs, donc l'écu. Mais évidemment qu'avec 10 écus, on achetait beaucoup plus qu'avec 20 francs aujourd'hui, bien sûr. Et alors, c'était toujours prêté au taux de 5%, et l'intérêt était toujours versé à la Saint-Martin, c'est-à-dire le 11 novembre de chaque année. Mais ainsi, les écoles, les chapelles, la cure, tel ou tel ou autrement, avaient son indépendance financière, et il y avait un procureur de la fondation qui était désigné, qui changeait de temps en temps, et qui encaissait cet argent et qui le mettait à disposition moyennant une petite finance. Donc, c'est, si vous voulez, de cette manière, je pense que de Viguerie dit que la société civile est intervenue pour beaucoup par la générosité des gens dans le financement de tout cet immense réseau scolaire qui s'est étendu sur toute l'Europe. Pour clore son chapitre sur l'école chrétienne, l'auteur aborde la question de sa finalité et montre aisément combien le langage de clarté qui faisait dire au père Lacordaire que l'école devait faire croître dans l'âme des enfants les trois vertus théologales, n'est plus tenu. Le concile, je cite, guillemets, « Le concile Vatican II, dit-il en passant, souligne l'importance de l'école, mais ne dit pas qu'elle est indispensable à la formation, donc l'importance de l'école catholique, mais ne dit pas qu'elle est indispensable à la formation de l'enfant. » Qu'en est-il des maîtres? Maintenant, il n'y a pas d'école sans maître, bien sûr. Comment rendre justice à ces bataillons de maîtres qui, selon leur génie propre, vivifié par celui de leur fondateur, ont éduqué et enseigné le peuple chrétien? Ce furent d'abord les moines dont la marque s'imprima pendant près de 1000 ans. Et elle s'imprima dans l'école, où on peut voir encore certains aspects qui portent leur estampille. Hein, consigne de silence, division extrême du temps, levée très matinale, petit nombre d'heures de classe, mais grand nombre d'heures d'études. Les moines avaient autre chose à faire, et alors ils restreignaient peut-être le temps à l'étude. Après les moines vinrent les ordres enseignants. Jean Viguerie distingue plusieurs générations. Les dominicains et les hiéronymites dans les 12e ou 13e siècles. Immédiatement avant le concile de Trente, il y a des termes même qu'on ignore tellement il y en avait, les somasques, les barnabites, les ursulines et les jésuites. Après le concile de Trente, les pères de la doctrine chrétienne et de multiples instituts féminins. À la fin du 17e siècle, les frères des écoles chrétiennes et d'autres encore, j'abrège. Après Jean Viguerie qui abrège aussi. Après la Révolution, on verra les maristes et les marianistes. C'est donc la Compagnie de Jésus, gouvernée en 1749 un millier de collèges répartis sur trois continents. Vers 1760, on peut faire cette estimation que les écoles congréganistes, donc dirigées par des religieux groupés en congrégation, scolarisent un enfant sur trois au niveau élémentaire et 3 sur 4 au niveau secondaire. Tout ne va pas sans problème, on pense bien, tout n'est pas parfait, les déviations s'observent, la tiédeur s'installe. Est-il malveillant de dire que Voltaire et Diderot et bien d'autres ennemis de l'Église sortent des collèges jésuites? Les persécutions, les calomnies, l'acharnement tracassé sont une réalité des derniers siècles où, je cite, libéraux, radicaux ou socialistes, la plupart des gouvernements européens voient en eux, donc dans les enseignants, de redoutables agents du pape et d'inquiétants suppôts du fanatisme et de la superstition. C'est en tout cas leur langage. Quant à la France, qui vient en dernier là-dedans, je cite notre auteur Jean Viguerie, la France vient en dernier, mais ne se montre pas moins radicale dans la persécution. En 1880, les jésuites sont expulsés. Ensuite, les 753 congrégations jusqu'alors tolérées, sans être autorisées, sont invitées à demander l'autorisation qui leur est refusée, en même temps que leur est signifiée l'interdiction d'enseigner. Enfin, la loi du 20 juillet 1904, votée à l'initiative d'Émile Combes, président du Conseil, décrète la suppression de toutes les écoles congréganistes. 2 ans plus tôt, lors de son accession au pouvoir, ce Combes avait déclaré « Il nous tarde plus qu'à qui que ce soit de pouvoir dire en toute vérité qu'en France, l'enseignement congréganiste a vécu. » Donc les épreuves ne leur furent pas épargnées. Et pour terminer, l'auteur ouvre maintenant un chapitre sur la pédagogie. Finalement, quel est l'esprit disons, quelles sont les grandes lois, les grands principes qui vont animer l'action de tous ces enseignants ou de toutes ces congrégations. Alors, pour essayer de résumer la chose, on pourrait dire ceci, car l'intérêt est sans doute majeur de comparer la pédagogie séculaire à la pédagogie moderne. Dans la pédagogie séculaire, traditionnelle, je crois que la pédagogie que nous avons, et je parle pour de nombreux collègues enseignants que j'ai eus, continuer à vouloir mettre en application. Premier principe, l'enfant n'est pas innocent. Blessé par le péché originel, il doit être redressé. Premier principe. Il est aussi très important en politique, durant ce principe-là. Deuxième principe, la maîtrise de soi. Gouverner ses impulsions, vivre en paix avec les voisins. Alors, c'est tout l'enseignement du moine, hein, des couvents, des bénédictins, on pourrait dire. C'est cette gentillesse de la vie commune. Et troisième principe, éduquer, c'est faire l'homme bon. C'est une citation de saint Thomas, c'est le conduire à la vertu. Là, ça résume l'essentiel de la pédagogie traditionnelle. Revenons à la lettre de notre auteur, puisqu'il n'a pas voulu venir en tir au pupitre par la force, n'est-ce pas? Alors, voilà donc, dit-il, les trois règles d'or. Savoir que l'enfant n'est pas innocent, lui apprendre à se maîtriser, l'exercer continuellement à la vertu. Saint Augustin, Saint Jean Chrysostome et Saint Thomas en sont les auteurs. Ils les ont formulées pour la première fois. Ils n'en sont pas les inventeurs. Elles sont liées à la nature même du christianisme. Tout éducateur vraiment chrétien les applique d'instinct. Évidemment, à défaut de science, on a au moins l'instinct. L'esprit des Lumières. Vous savez très bien, le mot lumière, c'est le nom de code des ténèbres, hein, comme il faut le savoir. L'esprit des Lumières est partout. Il ne faut pas s'étonner de le voir pénétrer aussi dans quelques instituts chrétiens. Jean de Vigry signale ces infiltrations, ces contaminations au cours du XVIIIe siècle, ces infidélités aux directives données, cette méfiance vis-à-vis du thomisme, par exemple, de certains ordres religieux. Mais, dit-il, il faut attendre le XXe siècle, notre siècle, et au XXe siècle, notre siècle, pardon, hein, on y a passé, et les années 1960 pour voir vraiment la révolution pénétrer dans l'école et subvertir l'école catholique elle-même. Alors, Jean de Vigry, on peut vraiment parler de révolution. En effet, à partir des années 60, du XXe siècle, une transformation totale s'observe. Le langage change complètement. La pédagogie recommandée à l'intérieur de l'Église ne parle plus d'exercer. La pédagogie recommandée, dès ce moment-là, à l'intérieur de l'Église, ne parle plus d'exercer les vertus, ni de conduire à l'état parfait de l'homme qui est l'état de vertu. Cela n'est plus son propos. Ce qu'elle veut faire, c'est, nous dit-elle, favoriser, guillemets, le développement de la personne par l'apprentissage de la liberté et de la responsabilité. Il faut expliquer ainsi grand changement et pour cela remonter à ses origines. La pédagogie du développement de la personne acquiert droit de cité dans les années 60 du XXe siècle et devient alors la pédagogie officielle, mais elle existait bien avant, même si elle était peu connue et fort peu pratiquée. Et de nous servir ici des citations ou des références d'un père Labertonnière qui est mouru en 1932, l'un des chefs de file du mouvement moderniste, et un certain Antonio Rosmini Serbati. Selon Rosmini, l'éducation doit s'attacher prioritairement au développement de la personne, etc. Je ne veux pas me lancer dans cette longue lecture. Et finalement, il en arrive à dire ceci du personnalisme conçu par les chrétiens, se qualifiant de chrétiens. Le personnalisme fait aisément son chemin dans l'Église. Ses thèses sur l'éducation trouvent une audience qui ne cesse de s'élargir. La déclaration du Concile Vatican II sur l'éducation chrétienne les reproduit exactement, presque mot pour mot, leur conférant ainsi l'autorité du magistère. Nous lisons en effet dans ce texte les lignes suivantes. Le but que poursuit la véritable éducation est de former la personne humaine dans la perspective de sa fin la plus haute et du bien du groupe dont l'homme est membre. Il faut donc aider les enfants et les jeunes gens à développer harmonieusement leurs aptitudes physiques, morales, intellectuelles, à acquérir graduellement un sens plus aigu de leurs responsabilités dans l'effort soutenu pour conduire leur vie personnelle et la conquête de la vraie liberté. C'est du Mounier. Et je cite encore, ce genre de propos peut paraître ingénieux et même séduisant, mais il serait difficile de lui trouver une résonance chrétienne. De même, et alors il fait référence à d'autres pédagogues, théoriciens qui ne sont pas directement eux, qui n'ont pas d'estampille chrétienne, Adolphe Ferrière, auteur de l'école active et fondateur de l'école didactiviste, qui est pour qui, chez l'enfant, nous explique-t-il, le besoin se manifeste par l'intermédiaire de l'intérêt et produit une sensation de plaisir. L'éducation sera donc adaptée à ce qui est désiré par l'enfant et même à la manière dont il le désire. Besoin, désir, plaisir, telle est la trilogie de Ferrière. Qu'une éducation chrétienne puisse se fonder sur elle a de quoi surprendre. Mais nous dit-on, l'auto-éducation et collective sont des méthodes très favorables à la formation chrétienne. Peut-être, dit Vigri, mais cela n'est pas une évidence. Vous voyez, je vous dis qu'il a le propos très prudent. Nous ne sommes pas obligés de le suivre dans toutes ces... Dans cette délicatesse vis-à-vis des responsables du désordre actuel. Voilà, c'est un peu sur ces propos que s'achève le livre de Jean de Vigri, 150 pages environ, avec une conclusion qui fait un rapide parcours où je prends dans cette conclusion résumée ce résumé-ci. Rien d'essentiel n'a été modifié pendant 14 siècles, jusqu'à aujourd'hui. Car notre génération a subi une grande révolution, la longue période qui durait depuis les premiers temps de l'Église s'est achevée, dans les années 60 du XXe siècle, une autre lui a succédé, c'est le troisième fait majeur, c'est la crise présente. Car on peut bien parler de crise, l'école ne progresse plus comme avant, la doctrine, sauf exception, n'est plus enseignée aux enfants, sinon de manière vague et inconsistante, et inconstante, dit-il. Est-ce que c'est un lapsus ? On peut oser les deux mots. Les instituts religieux enseignants ne se recrutent plus et la pédagogie oublieuse de ses propres principes s'inspire de théories matérialistes et réductrices. Tel est le troisième fait. La crise à laquelle nous assistons aujourd'hui qui ne résulte pas d'une croissance comme les deux premiers faits, mais d'un mal intérieur. Il s'agit d'une crise de conscience. En sorte qu'aujourd'hui, l'Église éducatrice manque à la famille et ne lui apporte plus le soutien et le réconfort dont celle-ci a plus que jamais besoin. Mais l'éducation chrétienne appartient à la cité de Dieu, elle vise l'éternité, c'est ce qui la rend irréductible à tout autre. Tout enfant, disait le père Lacordaire, est introduit dès sa naissance aux portes de l'éternité. Ce n'est pas un être périssable que l'Église prend en charge, c'est un être immortel. Un enfant de Dieu promis à la vie divine, les éducateurs peuvent l'oublier, mais l'Église, elle, ne l'oubliera jamais. C'est ainsi que s'achève le livre que j'ai eu l'honneur de vous présenter malheureusement. Merci.
À notre secrétaire, que je remplace tellement bien, de te dire merci comme ça.
Merci bien.
Voilà, messieurs et mesdames, j'espère que vous retiendrez quelque chose de ça, j'en suis certain. J'avais eu l'occasion de lire aussi ce livre et j'avais été frappé, moi, directeur d'école pendant 29 ans, de n'avoir pas été capable de voir les choses simplement. Parce qu'on a un tas d'administrations à faire, parce que les détails, comme on a vu dans l'Assemblée de tout à l'heure, vous prennent un temps et de l'énergie qui vous désarçonne. J'avais pas compris cette chose fantastique que René a dite, que j'avais dit autrement, presque sous forme de slogan. Les slogans sont gênants, parce qu'ils sont toujours raccourcis, parce que c'est toujours des flashs. Mais les slogans, excusez-moi, ils sont porteurs. Et plus ils sont courts, plus ils sont... plus ils étincellent, plus on les retient. Et finalement, ce que René a dit tout à l'heure, c'est ceci en très peu de mots, je ne peux pas me retenir de le dire, 14 siècles, sans que les principes ne soient modifiés aucunement. Donc depuis l'année 1400 à peu près. 14. Arrivé à 1960, complète révolution. Que j'ai vécu, que j'ai vu, avec toutes les méthodes, avec tous les changements. Parce qu'on n'est plus assez attentif à ceux qui ne changent pas. On ne le voit plus. Alors, 14 siècles sans, avec les principes suivants, en trois points, on reconnaît dans l'enfant un principe spirituel achevé dès le début de son existence. C'est le premier point. 14 siècles, tout le monde l'a cru. Tout le monde l'a dit. Je me souviens, en 800, la télévision le disait, avec Charlemagne. Premier point. Deuxième point, mais la nature de l'enfant est une nature blessée. Et tout le monde le comprenait. Et nous aussi, on le comprend aujourd'hui, parce qu'on sent comme on a mal quand on fait le contraire de ce qu'on voudrait faire. Et ça nous arrive tous les jours. Donc nous sommes des blessés, c'est vrai. Mais on le disait. Et troisième point, cette nature de l'enfant doit être soignée, puisqu'elle est blessée. Et comment elle est soignée? Par le savoir qu'on lui apporte et par l'apprentissage des vertus. C'était admis pendant 14 siècles. Arrive 1960, école valaisanne, école siéroise, école enfantine, école primaire, école allemande, tout le monde, et secondaire et l'université, bien sûr, bouleversement complet, pour aboutir à ceci. Trois points. Ah, mais ça, vous connaissez. L'homme est bon.
Ah oui.
Et il a des besoins. Premier point. Deuxième point, il faut les satisfaire. Pensez à l'école enfantine. Comment on apprend aux maîtresses d'école enfantine à donner suite aux vœux des enfants qui sont des créateurs. C'est des créateurs, on ne se rend pas compte. Donc il faut laisser donner suite à leur... Il faut satisfaire leurs besoins. Troisième point, pourquoi? Pour qu'il ait du plaisir. Fini? Pour qu'il ait du plaisir à l'existence. Et alors, le plaisir à l'existence, on voit ce que ça donne. Voilà. Excusez-moi. Je ne pouvais pas me retenir tellement ça m'avait frappé. Moi qui aurais dû voir ça tout de suite simplement, ben je ne l'avais pas vu. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi. Comme on avait dit tout à l'heure, débat politique, si vous voulez bien rester encore, est-ce que des questions d'ordre politique actuel vous intéressent? Est-ce que quelqu'un fait une proposition? Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose pour nos médias, par exemple, ou pour l'immigration. Tiens, puisqu'on vote demain. L'immigration. J'essaye d'introduire un débat. Nous avons cette votation demain, et je crois que le mouvement chrétien conservateur, et même d'autres, bien sûr, parce que nous n'avons rien inventé, c'est bien clair, a une position sur l'immigration. A une position qui est claire. Et qui est la suivante. Nous sommes opposés à l'arrivée massive de populations étrangères non assimilables de non-travailleurs. C'est tout. C'est notre position. Et cette position-là me fait rire parce que je me trouvais dans un à l'hôtel Atlantique à Sierre un soir, en face de deux élus députés socialistes. Et il y avait eu un article sur l'immigration et sur les étrangers et sur le racisme et sur l'extrême. Tiens, les Français maintenant ne prononcent plus droite. C'est un mot qui est exclu. C'est devenu la...
centriste.
C'est devenu la non-gauche. Il y a la gauche et la non-gauche. Si vous dites qu'il y a la droite, vous êtes hitlérien, vous êtes nazi. Vous êtes avisé. Bon. J'étais dans ce restaurant et j'étais en face de ces deux élus socialistes et on parlait d'immigration. Et nous avions fait un article il y a 2-3 ans et j'avais les deux évidemment contre moi. Enfin, pas contre moi, c'est jamais contre une personne. C'est toujours contre les idées. Nous respectons tellement un prochain. Toujours les idées. Ils étaient donc contre ces idées. Et dans le fond, moi-même, j'étais persuadé que ça n'était pas vrai. Jusque j'ai pu citer ces arguments-là, qui viennent de Maliran d'ailleurs, je ne les ai pas inventés, mais qui résument bien la situation. Et j'ai dit à ces socialistes ce que je viens de vous dire. Les deux ont dit « Ah mais, oui, mais comme ça, on est d'accord avec toi, ça c'est un ordre. » Et c'est ça. C'est terrible. Donc, ça vaut la peine de s'en souvenir. La dernière semaine, il y a un monsieur qui est un de nos amis qui s'appelle Antide Lisier qui a écrit un article assez percutant concernant le Nouvelliste. Et son comportement, et le comportement de la rédaction du Nouvelliste. Des idées de la rédaction du Nouvelliste, pas des personnes.
L'avez-vous lu?
Non.
Est-ce que ça vous intéresse?
Oui.
Vous l'avez lu?
Oui,
non. Je vous le lis. Pas tout, il est très court. Le titre, qui tire sur qui?
Pas que je fasse peur aux enfants.
Dans son numéro du 13 novembre, le Nouvelliste étale sur deux pages une vision parfaitement unilatérale et partiale du problème de l'asile. Il se permet de représenter un parti gouvernemental à travers l'image infamante d'un citoyen portant un brassard qui rappelle singulièrement les sinistres années 39-45, citoyen qui tire à vue sur une femme, un homme et un enfant, donc sur une famille. Voilà qui démontre bien le mépris, pour ne pas dire la haine, d'une rédaction, entre guillemets, politiquement correcte, envers ceux qui pensent différemment. Les 10 à 60% des citoyens qui voteront l'initiative UDC savent dorénavant ce qu'ils représentent aux yeux des « gentils penseurs », entre guillemets, du Nouvelliste, c'est-à-dire, ils pensent, les gentils penseurs, que ce sont des assassins et des nazis. Je demeure persuadé que malgré l'étiquette d'extrémiste dont on accable les électeurs UDC, bien peu d'entre eux auraient osé applaudir une caricature représentant des requérants d'asile en train de vendre de la drogue à des jeunes de chez nous ou agressant de paisibles commerçants. C'est signé Antide Lisier. Et je pense que ça vaut la peine d'avoir un brin de courage pour le dire. Nous, on a... Moi-même, je n'ai pas eu ce courage-là, je ne l'ai pas fait. Mais J'aimerais arrêter de parler. Et il n'y a pas de question. Bah écoutez, j'aimerais vous remercier de tout mon cœur, vous êtes nombreux, on n'attendait pas autant, puisque le grand historien qu'on attendait n'est pas venu, eh bien vous voyez que M. Berthaud a son succès aussi. Et vous, par conséquent, je vous remercie beaucoup, je lève cette... Ah pardon, oui. Monsieur Berthaud.
Une question administrative. On m'a demandé d'apporter les livres de l'orateur absent.
Oui, c'est moi. C'était moi.
Et malheureusement, je ne sais pas si c'est une question de barrage routier, mais les livres commandés sur l'éducation et l'Église ne sont pas arrivés. Mais ils vont prochainement arriver à la librairie. Et si vous aimeriez un exemplaire, il faut remplir le papier que vous avez reçu. Et nous, pour le plaisir, donc, de parvenir. Il y a d'autres livres de M. Bigri sur la table pour ceux qui s'intéressent à ça.
Merci.
Bon, merci beaucoup, M. Berthaud. Je lui avais téléphoné expressément pour qu'il soit là ce soir avec des livres de Jean de Bigri. Ça vaut la peine de le lire, vraiment. Ouais. Puisqu'un professionnel comme moi a été surpris et heureux. Je lève cette séance, je vous remercie infiniment.